Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Kipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais, hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit, ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour, bonsoir et bienvenue à Cour d'honneur saison 5 épisode 3. Plus que quelques jours avant la fête la plus attendue de l'année par les enfants, nos chroniques débordent de sujets. C'est vrai qu'entre un ancien président en prison, un mari déclaré coupable du meurtre de sa femme et les annonces ô combien dévastatrices du gouvernement, on avait envie de bonnes nouvelles. On n'aborde pas de nouveautés par contre, juste les plus vieilles pratiques traditionnelles telles que les sciences, la santé et Halloween. On se pose toujours cette même question. C'est quoi être étudiant à la Sorbonne? Et on y répond toujours sur Radio Sorbonne Université, votre magazine préféré d'info et de culture qui fait le tour de la Sorbonne et de ses campus. C'est un mercredi sur deux sur Radio Campus Paris et un samedi sur deux sur... Non, Radio Sorbonne Université et un samedi sur deux sur Radio Campus Paris. Pendant une heure, on va remonter le temps.
Yeah, Robespierre, vous pensez qu'ils sont capables de s'exprimer devant l'Assemblée?
Il y a qu'à leur demander.
Vous n'avez pas peur de monter à la tribune, citoyen? C'était pas un auditoire facile, vous savez.
Je ne connois point la peur, grand chef. On saura bien les sermons.
On va parler santé.
Sarkozy qui va se rendre à la prison de la santé dans le 14e arrondissement. Il se trouve actuellement dans le 16e arrondissement.
Mais surtout d'Halloween. Voilà, c'est effrayant. Voici mes promesses avec la meilleure des équipes pour vous servir. Elias, le fameux, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là tous ensemble pour fêter Halloween et pour cette émission spéciale Halloween. Je vous ai préparé un petit micro-trottoir sur justement qu'est-ce que les gens pensent d'Halloween avec l'âge. Est-ce que ça perd de sa hype ou pas? On verra ça.
Ok, on a hâte de tout ça. Lavinia aussi, bonsoir.
Hello Swan, alors je suis pas là pour vous effrayer ce soir, mais plutôt pour vous aider dans vos frayeurs d'étudiants avec un reportage sur le service santé étudiante.
Yes, bonsoir Ajad aussi.
Bonsoir, je vais parler aussi d'Halloween et voilà, je vais vous donner tous les bons petits plans pour faire la fête.
Ah oui, ça, très important. Alice, le retour.
Coucou tout le monde. Alors moi, aujourd'hui, je vous ai préparé une petite chronique pavée sur la mobilisation pour la visibilité gay sur les campus de fac dans les années 90. Voilà.
On a également Clara autour de la table, le retour aussi.
Hello, et ben oui, je suis ravie d'être de nouveau parmi vous. Alors moi, ce soir, ça va être une interview avec la programmatrice du festival Paris Science. Voilà, donc tout le monde parle d'Halloween, effets spéciaux, etc. Moi, je vais retourner du côté de la science.
Bonsoir donc à Romane Orly, notre invitée de ce soir. Et à Ellie, qu'on n'oublie pas, carrément dernière.
Tu m'as un peu oublié, mais c'est pas grave. Bonsoir à tous. Et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Et moi, ce soir, je vais préparer une petite chronique Sorbonne en personne sur Elie Wiesel, qui a été à la Sorbonne. Et je sais qu'on dirait pas, mais je suis déguisée en ma dernière situationship. Ça fait très peur.
Voilà, ouais. Très envie de placer celui-là. Sans oublier le grand Thomas Pesquet. Non, pardon, Thomas Nguijol. Et non, j'arrive à court de Thomas. C'est encore le fameux célèbre Thomas Schnell.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Vous êtes déjà en vacances, mais c'est un scandale, et ces oui. Étudiants. Non mais c'est dans quelques jours là, ils me font non, mais je vous vois bien, ça va arriver très vite les vacances universitaires.
Alors en attendant, pour clarifier, on est en plein examen surtout avant d'être en pleine vacances. Et surtout pour que vous sachiez, puisque vous avez les oreilles mais non pas les yeux ce soir, notre équipe est déguisée. Voilà, est-ce que vous avez envie de dire un petit mot sur votre déguisement? Vous avez 10 secondes.
Moi je suis déguisée en poulet, voilà, j'ai un chapeau poulet, j'ai une combi poulet, j'ai une ceinture poulet, voilà c'est fini.
Moi je suis la bouchère qui a égorgé le poulet finalement. Donc petite lentille et petit sang, voilà.
Terrible.
Et moi une grenouillère Mario, voilà, hein, pas plus de choses à dire.
Et voilà, faites comme chez vous, chers auditeurs, installez-vous.
C'est la seule façon de montrer qu'ils existent.
Là c'est vraiment facile.
Carte blanche.
Halloween est une fête annuelle surcommercialisée et surtout très très vieille. Alors comme ça, depuis des siècles, on se déguise et on braque nos voisins contre des bonbons. Depuis des siècles, oui, mais pas avec les mêmes traditions. Je m'occupe justement de vous raconter l'origine de la fête la plus fraudeuse de l'année après la Saint-Valentin. Tout d'abord, on fête Halloween depuis plus de 2500 ans avant même la naissance de Jesus Christ. C'est donc une célébration celtique-irlandaise qu'on appelait Samhain et non son pied, qui veut dire novembre en gaélique. Jusque-là, c'est plutôt logique, mais en fait non, puisque novembre tard l'époque, c'était janvier. Et oui, le premier mois de l'année du calendrier celte. C'était donc une sorte de fête du nouvel an où il y avait des druides et qui duraient pendant 7 jours, donc ils se mettaient pas seulement sur leur 31, mais également sur leur 32, 33, 34, 35, 36, 37. Waouh ! L'année du Samhain n'appartenait ni à l'année qui se termine ou celle qui commence, c'était une nuit hors du temps et du réel, ce qui explique pourquoi elle fut ensuite fêtée durant la Toussaint, comme aujourd'hui, mais pas vraiment, puisqu'avant la Toussaint, c'était le 13 mai. Ou alors, c'était avant Pâques ou avant la Pentecôte. Bon, pas très pressé, c'est les Irlandais là, wow. Apparaît alors son nom actuel, Halloween, qui est une contraction de l'expression All Hallows Eve, qui veut dire la veille de tous les saints. Halloween est très populaire en Irlande, évidemment, mais aussi en Écosse et au Pays de Galles. Et fun fact, elle sera introduite aux États-Unis grâce à l'immigration. Oui, oui, petit point d'histoire, je vous rappelle la grande famille irlandaise qu'on a tous étudiée au lycée, qui s'est passée de 1845 à 1851, durant laquelle les gens ne pouvaient plus manger de pommes de terre, du coup, ils ont fait une grève de la faim. Plus sérieusement, ils pouvaient vraiment plus manger, donc ils sont partis aux États-Unis parce qu'il y avait le McDo, et grâce à l'américanisation du monde, on a vite célébré Halloween un peu partout. C'est vers 1920 qu'on a commencé à avoir des lanternes de Jack-O-Lantern, évidemment qu'on avait besoin de se remonter le moral après littéralement la guerre, quoi. Pour l'histoire courte mais longue de Jack, il vient d'un vieux conte irlandais, c'était en gros un mec alcoolo qui a piégé le diable pour éviter de mourir, bah il est mort comme tout le monde, et on lui a refusé l'entrée au paradis et en enfer, aussi facilement recal qu'en boîte, le mec, depuis il erre dans le néant. Mais bon, il faisait trop tiep au diable, du coup il lui a donné une lanterne qui en fait était un navet creusé avec un charbon à l'intérieur, what the fuck. Bon, on peut maintenant le voir pour son anniv le jour d'Halloween. Attention par contre, entre lui et le fou du bus, c'est à s'y méprendre. Aujourd'hui, c'est surtout célébré en Irlande, Grande-Bretagne, États-Unis, Canada et aussi en Australie et Nouvelle-Zélande, donc Halloween sous les tropiques, j'adore le concept. Vous connaissez le principe, les enfants se déguisent avec des costumes et sonnent aux portes des voisins en demandant des bonbons. En France ou en Belgique, les enfants crient des bonbons ou un sort, mais au Québec, c'est des bonbons s'il vous plaît. Faut-il donc que nos gosses traversent l'Atlantique pour être polis ? Pour conclure, on rappelle que ce sont de vrais gens derrière ces déguisements. Et non des fantômes aux besoins de revanche, alertez les enfants. Voilà, c'était tout pour l'édito. Merci beaucoup Swan, c'est moi-même. Vous êtes toujours sur Radio Sorbonne, il est 20h07 et 18h07 sur Radio Campus Paris. N'oubliez pas que dans la ville, il y a des hauts, il y a des bas, et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Les citrouilles sont allumées, les fantômes sont de sortie, mais à quel âge l'envie de se faire la fête s'éteint-elle ? Simple tradition pour les moins de 10 ans ou véritable exutoire pour les plus grands ? Doit-on obligatoirement troquer le seau à bonbons contre un plateau télé en vieillissant ou l'horreur devient-elle plus amusante avec l'expérience ? Elias est justement allé vous demander.
Je ne fête pas non plus Halloween, donc j'ai pas vraiment eu cette hype pour Halloween quand j'étais jeune et je ressens pas trop de hype maintenant, mais c'est vrai que quand je vois et que j'entends parler de soirée, c'est vrai que ça m'intéresse un petit peu plus que juste aller dehors la nuit dans le 9-3, aller chercher des bonbons. C'est vrai que c'est un petit peu Bondi Nord, voilà quoi.
Honnêtement, moi j'ai la hype de Halloween, j'aime bien la vibe de Halloween, c'est vraiment quelque chose que tu veux pas avoir. C'est l'occasion de faire un costume avec des potes. J'ai grandi à Paris donc vraiment il n'y avait vraiment pas la hype de Halloween, il n'y avait pas vraiment ça, et maintenant que je suis plus vieux et que je vais en soirée etc. Et qu'on organise des soirées, Halloween c'est l'opportunité de vraiment s'amuser quoi.
Halloween c'est pas un événement qui est très fêté en France, c'est beaucoup associé à la chasse aux bonbons et aux enfants etc. C'est quelque chose qui peut paraître enfantin, donc oui ça a tendance à s'essouffler avec l'âge. Cependant, je pense qu'il y a d'autres manières de vouloir faire vivre ou de faire revivre Halloween en organisant des événements festifs ou ce genre de choses qui seraient aussi plus adaptés aux personnes plus âgées. Quoi.
Quand j'étais enfant et ado, ça n'existait pas Halloween. Donc je ne peux pas dire que c'est parti puisque c'est jamais venu. Après, moi, ce que j'ai eu plaisir avec mes enfants à les associer à Halloween, oui. Après, je vois que, en fait, quand ils sont petits, on fait un truc. Et puis, quand ils sont plus grands, on fait autre chose. Et après, j'ai l'impression qu'Halloween, c'est surtout l'occasion de foutre un peu le bazar. Mais comme pas mal de trucs.
Il y a moins de magie dans le sens où on voit moins les choses de manière poétique. Je pense aussi que c'est parce qu'il y a plus de nostalgie. En y repensant, du coup, on a l'impression que c'est mieux.
Alors, ça m'a l'air un peu triste, tous ces petits témoignages de Halloween, entre ceux qui le fêtaient pas, ceux qui le fêtent plus. Bon, essayez de nous remonter un peu le moral pour cette fête quand même trépidante de l'année.
Moi, écoutez, Halloween, ça a toujours été une de mes fêtes préférées, donc je l'ai toujours fêtée, je continuerai de le faire. Et plus surtout, c'est une bonne opportunité de faire la fête encore une fois, donc ça je dis pas non. Puis c'est aussi, je sais pas si vous avez vu le film Mean Girl, mais c'est aussi un bon prétexte pour s'habiller comme on veut, un peu Antana si on veut, un peu sexy, et que personne ne dise rien. Donc je prends l'opportunité et je laisse couler.
Absolument.
Mais après, est-ce qu'on a besoin d'être Halloween pour s'habiller comme on veut ou pas?
Ah, bien sûr que non.
Après, c'est sûr que c'est pas tous les jours qu'on s'habillait comme dans Mean Girl avec des
costumes
de lapin avec un string en fourrure rose. Oui. Ah, oui,
personnellement, je m'habille pas en Catwoman et tenue en cuir tous les jours. Quoi.
Non, j'avais pas l'image en tête. Loin.
Après, la tenue du sexy bunny, c'est pas vraiment une chose à laquelle je pense quand je pense à Halloween.
Non, c'est plutôt un drap blanc pour faire le fantôme, mais on essaie de un peu controverser les choses. Tu
mets un peu de sang, ça passe en vrai.
Moi, je trouve que c'est... Non, vas-y, toi, qu'est-ce que tu trouves?
C'est un bon moyen pour faire la fête. Il faut continuer. Là, le truc plateau repas et tout, ou perdre la hype en grandissant. Non, juste à se transformer en autre chose. Il n'y a plus le côté bonbon excitant quand t'es petit d'aller sonner chez les gens. Et,
ah bon?
Et voilà.
C'est génial d'aller sonner chez les gens, qu'importe
parce que
l'âge.
Ça, on continue de le faire.
Ah oui, oui. Les conséquences sont différentes de quand j'étais gosse si j'ai pas de bonbons, tu vois. Maintenant, j'ai de la force.
Mais surtout que moi, enfin, après, c'est peut-être un peu différent. À Paris, je sais pas comment ça se passait, mais moi, du coup, j'étais dans une petite ville à côté de Montpellier et c'était un peu mort le soir.
Ouais.
Donc un peu tristoun en fait Halloween. Donc justement, je crois que je préfère le Halloween de maintenant. Voilà, plus en mode soirée, déguisement.
Et est-ce que tu aurais préféré que le Halloween de toi plus petite soit plus mouvementé justement dans le sens aller sonner chez les gens pour des bonbons, peut-être que tu le fais toujours, je sais pas.
non, mais j'aurais bien voulu. J'aurais bien voulu qu'il y ait plus cette tendance-là parce que les gens ne le fêtaient pas trop en fait, là où on était. Donc je me suis reconnue un peu dans les témoignages qui disaient que c'était pas trop une fête qu'on célébrait en France parce que du coup dans la ville, il n'y avait pas vraiment de tradition. Quoi.
En vrai, ça m'étonne un peu parce que moi, c'était tout le contraire. Je viens d'une petite ville à côté de Toulouse et justement, genre, ma mère faisait partie du comité des fêtes en plus. Donc à chaque fois, c'était... une très grosse organisation. Genre, on avait carrément... Bon, c'était la campagne, donc forcément, voilà. Mais c'était genre un énorme tracteur qui avait une énorme remorque à l'arrière. Et il y avait tous les enfants à l'arrière de la remorque. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'était fun, je vous le dis. Et on allait chercher des bonbons et tout dans le... Exactement. On allait chercher des bonbons dans tout le village avec les parents qui suivaient. Et c'était vachement fun. Donc j'en garde un bon souvenir.
Oui, Swan. Alors oui, je vais contribuer, mais en fait, ça va pas aller dans un bon sens parce que moi, je comprends pas trop Halloween en fait. Ok, d'accord. Attendez, ne m'attaquez pas tout de suite. Mais comment dire, c'est pour moi, c'est un truc de consommateur surtout. Ah voilà.
Mais comme la Saint-Valentin, comme Noël,
comme toutes les fêtes,
des bonbons homemade.
Mais ouais, mais enfin, je sais pas. Mais tu dois t'acheter un costume, tu vas acheter des bonbons, tu vas acheter des lanternes pour les petits enfants aussi parfois qui, je sais pas si vous avez ça aussi lors d'Halloween, ils vont en fait avec les lanternes parfois aussi chercher, enfin c'est un truc plus gentil quoi. Mais je sais pas, genre t'achètes et puis après, je sais pas, il y a pas l'ambiance chaleureuse de Noël, donc au moins là c'est une excuse pour dépenser. Je vois pas trop en fait.
Je trouve que justement c'était hyper chaleureux. Enfin, qu'en fait, quand j'étais jeune, il y avait toutes les copines qui venaient à la maison, on se déguisait, on se maquillait. Et après, ma mère nous emmenait faire un tour de voisinage et on récoltait un gros butin de sucreries. Et je sais pas quand est-ce que ça a changé, mais après, ça commençait à être les soirées d'Halloween plus. Donc c'est un autre mood. Mais c'est vrai que la journée, je trouvais que justement, c'était vachement chaleureux. Et puis bah, après, il y a eu ce tournant adolescence, soirée. Et Halloween, c'est vraiment devenu le prétexte pour la soirée de l'année. Mais c'est vrai que, en vrai, je trouve qu'en France, c'est quand même assez chaleureux, Halloween. On retrouve ses amis, puis t'as la famille, les voisins. En vrai, c'est là où tu rencontres tes voisins, je pense aussi. Sinon, tu les vois jamais, genre, en vrai.
Ouais. Même à Paris, je pense que tu vas toquer à chaque palier, tu vois, c'est des trucs comme ça. Je sais pas comment ils l'ont vécu, les enfants
la
parisiens.
La concierge.
Ouais, la concierge, je suis sûre qu'elle avait toujours des bonbons.
Ah, bah,
c'est vrai que nous, c'est chaleureux, ouais, dans le sens où c'est dans le voisinage que ça se passe, surtout dans les petits quartiers, c'est très résidentiel en France. Donc ça rejoint un peu le concept au niveau des États-Unis aussi, c'est les quartiers.
Moi, Halloween, j'en pense rien. Je suis contente quand je peux mettre un costume. Je m'en fous quand je mange plein de bonbons. En fait, je trouve qu'en France, ce qui est chouette, c'est de regarder des films. Et donc, du coup, de... Parce qu'aux États-Unis, ils font ça super bien, Halloween. Je trouve qu'en France, on est moins dans le game. Du coup, c'est soit pour boire de l'alcool, soit pour mettre un costume un peu rigolo qu'on n'a pas l'habitude de mettre. Ou alors pour regarder comment l'Amérique fait mieux Halloween que nous. Mais Mais je trouve pas que ce soit
le cœur du capitalisme.
Un peu. Mais après, on clique tous un peu, mais ça a pas trop d'intérêt. Mais on clique tous un peu. Enfin, si ça dépend de comment ça nous touche en fonction des fêtes. Voilà, je pense que c'est nuancé.
Mais voilà. Toi, t'es plus habillée en Thanksgiving, hein. Avec la.
Les gens sont pas la dinde.
La dinde rôtie.
Attention.
Au marron chaud.
On s'en parlera.
Cette année,
après
tu es la proie. L'année prochaine, tu seras le prédateur. T'inquiète pas.
Mais t'inquiète pas.
Non, mais oui, il y a un côté création aussi, creuser les citrouilles, etc. Genre, je pense que si on s'y met à fond,
ouais.
En fait, c'est pas une fête qu'on peut faire à moitié.
C'est une vraie tradition d'Halloween, pas seulement se déguiser et machin. C'est vraiment, à la base, c'était dans les navets. Parce que, comme je l'ai dit, si vous avez bien écouté ma chronique, c'est pas seulement, et c'est aussi dans les navets, les machins, tu vois.
C'est l'automne en vrai, Lana Del Rey.
Tout le monde essaie de me convaincre. D'accord. J'avoue, c'est plus que juste consommer. Après, c'est intéressant pour les jeunes, quoi. Moi, je me sens vieille déjà. Non, mais tu vois, je sais pas, à part les soirées étudiantes, genre, je sais pas, Thomas, qu'est-ce qu'il en pense?
Il est plus là.
Il est pas là, Thomas.
On a perdu notre réalisateur.
Non, il aurait pu nous dire.
C'est pour ça que c'est un peu le bazar, là.
Adultes, tu vois, les adultes à ce tournant-là, près de la trentaine, quarantaine, est-ce qu'ils continuent?
J'ai 31 et j'ai une soirée Halloween la semaine prochaine. Donc,
et voilà!
Ah bah voilà! Voilà!
Il n'y a pas d'âge pour faire la fête.
Il n'y a pas d'âge pour faire la fête.
Mais merci. Après, je rejoins un peu Lavinia sur le fait que, pour moi, ça n'a pas trop de sens, en fait. C'est comme si on avait créé une fête, on avait dit à ce moment-là, il y aura une fête, mais je sais pas, on m'a pas... Après, c'est des trucs d'éducation, hein, mais on m'a pas élevé dans la tradition de c'est Halloween, justement, on creuse des citrouilles, on fait des jack-o'-lanterns. Mais...
jack-o'-lantern.
Des jack-o'-lanterns.
Mais...
Jack-o'-lanterns.
Stade.
Mais ouais, en fait, quand j'étais petit, je voyais ça comme l'occasion de l'année d'aller chercher des bonbons, de voir les voisins un peu, si j'avais envie de rencontrer les voisins, mais c'est tout, quoi. J'attendais pas spécialement ça avec impatience. Peut-être deux jours avant, je me suis dit, je vais manger des bonbons, mais c'est tout, quoi.
Elias le rat.
Ouais, bah un peu, hein.
Je pense que c'est la fête qui est la plus différente selon l'âge qu'on a. Je pense que quand t'es enfant, comme on a dit, genre il y a vraiment le côté bonbon, etc. Étudiant, soirée, et après quand t'es parent, genre je trouve le côté transmettre le plaisir aux enfants de creuser les citrouilles, etc. Enfin genre là moi quand j'ai fait du woofing la semaine dernière, il y avait un marché de l'automne et on a vu que c'était une ferme, du coup on a récolté les citrouilles et on faisait des ateliers avec les enfants des villages à côté. C'était vers Nemours-Montargis et en fait c'était trop bien. Et j'ai adoré. Et voilà, petite promo pour cette ferme qui s'appelle Les Clés de la Ferme. Et c'est vraiment trop chouette. Ils font plein d'ateliers. Et là, du coup, il y a plein d'enfants qui étaient venus. C'était génial. Mais parce que...
Faudrait aller faire un reportage là-bas.
Ouais, grave. Je peux leur demander.
Comment on en
parle? Je suis à Montargis.
Ouais.
Absolutely.
J'ai habité à Montargis. Je pense que c'est le seul truc à faire là-bas. Voilà.
D'où le costume pool. D'accord. Voilà. Tous rejoints.
On peut faire que ça là-bas et aussi surtout se déguiser et aller prendre les bonbons dans les fermes et les machins. Surtout. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Peut-être, je sais pas, un coup de gueule sur Halloween aussi?
Moi j'ai une anecdote si vous voulez. J'ai gagné un concours de citrouille une fois quand j'étais petite avec ma mère.
Ça.
Ouais, on avait fait la citrouille la plus effrayante et j'avais gagné. Mais le second lot était mieux que le premier donc j'avais un peu le seum.
Ça, on aimerait bien essayer. 2 ans après la sortie de son album autotitré, Masego est de retour sur scène avec son nouveau single Unhinged. Tout de suite sur Cours d'honneur. Okay, maybe I'm unhinged. Mind above the hinge. Open doors I can't get in. I just wanna make new friends. Dancing on a different side of the club. Calling it lust, calling it lust. Why you out there making a fuss? Acting unjust in the court of love. Can you just let me out, babe? I swear I won't tell if a normal girl is my destiny in my pair. I'ma go there. Listen to my body language. I'm walking poetry. Holy matrimony. Feast your eyes. I say listen to my body language. I'm walking poetry.
holy matrimony, feast your eyes. Okay, maybe I am unhinged. Kick my up off the hinge. Open doors I can't get in. I just wanna make new friends.
Il est 20h20 sur Cours d'honneur, vous venez d'écouter Unhinged de Masego, mondialement connu pour son titre Tadow, en collab avec FKJ. J'arrête avec les accents anglais. Il nous régale avec cette sortie qui date du 14 octobre. On apprécie également le clip, nouveauté chez l'artiste qui transmet sa créativité visuelle. En parlant de clip, on parle de court, de long, de documentaire, tout de suite avec l'interview de Roman Orly.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Roman Orly, bonsoir. Vous êtes la programmatrice de la 21e édition du Festival Paris Science, qui est un festival international du film scientifique, où nous pourrons voir une sélection de documentaires des sciences du 23 au 27 octobre, dès demain donc. Ce soir, vous êtes avec nous, mais surtout vous êtes interviewée par Clara, et vous êtes invitée à l'émission Cours d'honneur de la radio de la Sorbonne. Bienvenue.
Et bonsoir.
Salut Clara.
Concrètement, vous êtes basée sur quels critères pour sélectionner les films en compétition? Puisque le thème donc, compte beaucoup, mais aussi on pourrait penser à l'innovation, la qualité de narration ou encore la manière d'aborder un sujet scientifique.
La qualité première, c'est la rigueur et l'exactitude des connaissances qu'il y a dans un film. Ça, c'est vraiment la première barre à passer. Je pense qu'on serait un petit peu mal si on programmait un truc qui était à côté de la plaque. Donc on a pas mal de systèmes qui existent pour s'assurer qu'on ne programme pas n'importe quoi.
Vous avez un comité scientifique ou...
ouais, ouais. Si besoin, il y a pas mal de chercheurs et de chercheuses qu'on connaît à qui on peut envoyer les films si on a des doutes sur ce qui se passe dedans. Et après, c'est assez compliqué comme question parce qu'on a tellement de compétitions et de sections différentes qu'en fait, quand on choisit un film pour une séance famille, on s'attend à avoir des 8-9 ans. Et quand on choisit un film qui, pour la compétition, où il y a plutôt des documentaires d'auteurs, c'est pas du tout les mêmes critères, en fait. Donc, je pense qu'on essaye de au-delà de l'aspect qui a à voir avec la médiation scientifique, on essaie de montrer des beaux films, quoi, qu'il y ait des belles histoires, qu'il y ait des choses qui touchent les spectateurs, qui les étonnent, de leur proposer des expériences qui changent aussi un petit peu des choses habituelles, pour qu'ils ressortent d'une séance de Paris Science en s'étant dit qu'ils ont appris des choses, mais qu'ils ont aussi vu un putain de film, idéalement.
Et justement, comment rendre ces films accessibles à un public non spécialiste? Parce que comme vous venez de le dire, il y a différents types, plutôt un type famille, plutôt, enfin, il faut s'adapter à son public, en fait. Et donc, comment on peut avoir cette malléabilité-là, on va dire, sans trahir la rigueur scientifique?
Wow, ça c'est une vaste question, l'accessibilité. On se la pose à genre toutes les étapes d'organisation du festival. Et on essaye de faire en sorte que les séances soient fléchées correctement pour que les gens, suivant leur profil, aient des séances qui soient adaptées à ce qu'ils ont envie de voir. Ça joue surtout pour le festival scolaire qui a eu lieu avant, du coup, où on accueille aussi bien des primaires que des collégiens que des lycéens, où là, du coup, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là pour que le niveau d'information qui est dans les films soit compréhensible pour les publics en face. Et après, pendant le grand public, on essaye de faire en sorte que ce soit suffisamment riche pour que les gens qui soient vraiment férus de science y trouvent leur compte, mais que ce soit aussi accessible pour des gens qui découvrent, quoi.
par exemple, la durée, c'est un critère peut-être pour les scolaires ou les plus petits de...
Alors pour les scolaires, ouais, complètement. Genre, c'est difficile de leur montrer des films de plus d'une heure. Et on passe pas mal de cours pour les petits, du coup. Par contre, pour le grand public, il y a de tout. Il y a des programmes de court-métrage, mais il y a aussi des documentaires qui peuvent durer 2 heures, par exemple.
Et donc, du coup, dans ce processus de sélection, vous avez dû recevoir de nombreuses candidatures. Je ne sais pas si ça augmente beaucoup dans le temps. Est-ce que vous avez vu plus de candidatures ?
On a eu un petit boost là, ces dernières années. On a eu le 20e anniversaire l'année dernière, donc je pense qu'il y a eu aussi un petit truc qui s'est passé à ce niveau-là. Et cette année, c'était le record absolu. Avec ma collègue qui fait la programmation jeune public, on a regardé presque 600 films.
Ah oui.
Ouais. Donc c'était beaucoup. Y a des films qui arrivent jusqu'à nous parce qu'on a un appel qui est ouvert à tout le monde. Donc n'importe qui peut nous envoyer un film au printemps. Mais on fait aussi un gros travail de recherche pour essayer d'aller dénicher des petites pépites. Donc
Vous regardez tout ce qui vous est envoyé, vous le regardez ou...
Ouais.
D'accord. Et est-ce que vous avez remarqué des thèmes récurrents, des préoccupations scientifiques qui marqueraient peut-être notre époque ?
Ouais, l'intelligence artificielle, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est... Ouais, ça depuis maintenant quelques années, c'est une thématique récurrente. Il y a aussi, et ça c'est intéressant, on voit de plus en plus de films qui se passent entièrement à l'intérieur de mondes virtuels ou de jeux vidéo. Ça c'est un truc qui est assez nouveau et cette année c'était la première fois qu'on en recevait autant et on a presque l'impression qu'il y a une sorte de sous-genre qui est en train de se créer. Et je pense aussi qu'on voit pas mal de choses qui ont à voir avec le vivant et la relation entre les humains et les animaux. Enfin, on sent que c'est aussi quelque chose qui travaille pas mal... les réalisateurs et les réalisatrices, et puis des sujets de société, quoi. La santé, ça va mal, les sciences sont en danger, ce genre de choses.
Et par rapport justement à cette place croissante de l'IA, depuis les grandes œuvres comme Microcosmos dans les années 90, comment le film documentaire scientifique a-t-il évolué ? Est-ce qu'on fait encore des films comme avant, donc au point de vue technologique, ou est-ce que les nouvelles générations ont tout changé ? Donc, vous parliez de l'IA qui presque donnait lieu à un nouveau format, en fait. Il y a d'autres évolutions ?
L'IA, c'en est une, et ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait des films qui utilisent l'IA pour faire des images qui sont à l'intérieur ? Est-ce qu'on les sélectionne ? Est-ce que c'est éthique de faire ça ? Dans quelle mesure ça peut l'être ? Comment on peut les utiliser ? Enfin, ça pose du coup vraiment des questions de fond pour nous. Et en termes de renouvellement des formes pour parler de science, je pense qu'il y a pas mal de choses vraiment innovantes qui se font pour sortir du format un petit peu habituel, Frédéric Jamy, qu'on connaît... des maquettes et l'explication. Enfin, il y a vraiment pas mal de jeunes réels qui s'emparent de ces questions-là de manière vraiment étonnante. Et je pense notamment à une série qu'on va passer le samedi soir qui s'appelle Origine, qui raconte l'histoire de l'univers comme si c'était la lumière qui nous expliquait comment l'univers était né. Et ce qu'on voit à l'image, c'est que des images abstraites qu'ils ont fait avec un petit peu de chimie et genre des effets de lumière, et c'est dingue, on se croirait que dans le passage psychédélique de 2001, quoi.
Donc on perdrait presque un peu le côté vivant, le côté vrai de la nature avec ces formats un peu plus anciens comme Microcosmos où on voyait vraiment la nature telle qu'elle est, quoi. Ça se fait un peu moins.
Je sais pas si ça se fait moins, je pense que ça dépend vraiment des thématiques. Pour le coup, on a aussi beaucoup de films qui sont sur... le terrain où on a l'occasion d'aller voir des vrais animaux.
Okay. Oui, il y a plus de formats qui arrivent, donc ça se diversifie. Et du coup, il y a un autre point intéressant, c'est la déformation qui marque notre époque, le complotisme et une méfiance croissante envers les institutions. Dans un contexte aussi post-Covid et de remise en question du discours officiel, comment un festival comme le vôtre peut-il contribuer à réconcilier le grand public avec la science ?
Ça c'est la vraie question parce que c'est au cœur du projet de Paris Science. On essaye d'organiser un vrai dialogue entre la société, le cinéma et le public, et pour le cas du festival grand public c'est vraiment littéral parce qu'après chaque projection il y a un échange avec et l'équipe du film et des scientifiques qui sont spécialistes des sujets qui ont été abordés dans le film. Donc, pour le coup il y a vraiment un échange direct entre les gens et des scientifiques, et je pense que ça permet d'abattre certaines barrières qu'on peut avoir mentales, notamment par rapport aux sciences et à leur prétendue inaccessibilité. Enfin, ça peut faire un petit peu peur ou ça peut sembler lointain. Et quand on a discuté avec quelqu'un qui est spécialiste de l'IA, par exemple, et du coup, les intelligences artificielles, ça fait peut-être un petit peu moins peur. Enfin,
Oui, donc c'est une vulgarisation à deux niveaux. Est-ce qu'il y a eu un moment fort ou une pépite de cette 21e édition que vous attendez avec impatience de partager avec le public ?
C'est dur comme question. Vu que je ne peux pas répondre toutes les séances, je vais peut-être parler d'un film qui passe samedi soir qui s'appelle Les Esprits Libres. C'est un documentaire dans lequel on suit des patients qui sont en EHPAD et qui font une résidence de théâtre pendant 15 jours avec leurs soignants. Et ils arrivent à monter un truc assez dingue et on voit que quand on donne un autre cadre à ces personnes-là, on peut faire des choses dingues. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu le moment émotionnant du festival.
Super, merci. Et quelle place aussi occupe la collaboration entre scientifiques, réalisateurs et grand public dans votre démarche ? Donc vous avez parlé des réalisateurs qui venaient sur place pour pouvoir discuter ensuite. Est-ce qu'on peut appeler ça un travail à trois voies ?
Ouais, complètement. Et ça, c'est ce qu'on fait pour le grand public, mais on a aussi pas mal d'actions pour les étudiants et les professionnels où on organise aussi ces rencontres-là. Donc par exemple, on a une compétition de courts-métrages en 48 heures avec des jeunes réalisateurs ou réalisatrices, des jeunes chercheuses ou chercheurs, généralement doctorants ou post-doc, et on les réunit, on fait des binômes en tirant au sort, et ensuite ils ont 48 heures pour faire un film.
Super. Et enfin, donc on arrive à la dernière question rituelle de notre émission. Que représente la Sorbonne pour vous ?
Ça représente mon passé parce que j'ai été étudiante ici. Wow. Donc ça me ramène un petit peu.
Super. Eh bien, merci beaucoup Romane Orly d'avoir été avec nous ce soir. On vous retrouvera donc dès demain au Festival Paris Science, au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et pour vous qui nous écoutez, restez à l'écoute de Cours d'Honneur. On vous prépare un reportage exclusif sur cette nouvelle édition.
Merci beaucoup mesdames pour cette interview. Notre belge préféré signe son grand retour avec un morceau poignant entre rap, R&B et soul. Personnel dans le ton, universel dans le fond. Swing est de retour donc à la croisée des mondes de l'industrie musicale, on pourrait dire en enfer, tout de suite sur Cours d'Honneur.
Seule ligne droite, tant d'intersection. Un peu nous deux dans les bacs, puis on ir. Elle s'attache à mes imperfections. J'suis comme une traque avant de partir au mix. J'ai trouvé sans te chercher. Depuis la douleur a fait ses valises. Tu me regardes, je sens mon cœur se resserrer. J'cours après ce frisson, c'est adrénaline. Sur noir, comme aux enterrements ou quand elle danse sur moi. Elle me parle de ses sentiments comme d'une arme dans le tiroir. Qu'elle veut pas sortir par peur du mal que je ferai avec un cœur qui bat. Figé dans le ciment, le paradis c'est loin. J'aurais pas toujours toutes les réponses à tes questions. Qu'est-ce qu'on sera dans 10 ans, de qui tu parles dans tes chansons?
Il est 20h34 sur Cours d'Honneur et 18h34 sur Radio Campus Paris. Vous venez d'écouter L'Enfer de Swing, single sorti le 3 octobre, annonce d'un potentiel quatrième album peut-être. En attendant, ce n'est pas avec ces sons qu'on va aller mieux. Chers déprimés, chers dépressifs, Lavinia vous a concocté un reportage plus efficace pour soigner vos humeurs que des chansons tristes.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau, et là, c'est le drame.
Que ce soit à cause d'un partiel foireux, une mauvaise passe ou tout simplement le besoin de se confier quand la vie étudiante ça devient juste trop, la Sorbonne vous propose une aide psychologique au sein du service santé étudiant. Il s'adresse à tous les étudiants, dont les étudiants internationaux, ainsi que ceux en situation d'handicap. Et les consultations sont gratuites. Pour ce reportage, Lavinia s'est rendue sur place afin de découvrir en quoi consiste ce service exactement, afin que vous, chers puis en profiter.
C'est sur le campus des Cordeliers que vous retrouverez les locaux du service santé étudiante. Blanc, spacieux et apaisant, ils offrent un lieu d'écoute et d'aide professionnelle. C'est ici que j'ai rencontré deux psychologues, Sophie et Camille, qui nous expliquent en détail le fonctionnement de ce service.
Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis psychologue au SSE de Sorbonne Université et je pratique dans ce service depuis septembre 2019.
Je m'appelle Camille, je suis psychologue au service de santé étudiante de Sorbonne Université depuis à peu près un an.
Au sein du SSE, vous retrouverez une salle d'attente et un secrétariat où vous serez reçu dans un premier temps. Puis des bureaux pour les entretiens psychologiques, ainsi que des salles de consultation médicale, car ce service vous propose également des aides médicales préventives.
Du coup, c'est un service de santé étudiante de prévention plutôt. Il y a des médecins généralistes, plusieurs ici, au moins deux ou trois je crois, qui font là vraiment des consultations de médecine générale et aussi de diététique. On a une des médecins généralistes qui est plutôt formée de ce côté-là et donc qui peut donner des conseils en diététique, enfin voilà, avoir des consultations un peu orientées là-dessus. Il y a aussi donc de la santé plutôt gynécologique avec une sage-femme qui travaille ici une fois par semaine. Plutôt encore une fois de la médecine préventive, donc c'est quelques rendez-vous, un petit peu donc contraception, consultation de sage-femme classique. Et il y a aussi une orthophoniste qui est là aussi une fois par semaine, qui fait des bilans, ou des pré-bilans en tout cas. Et il y a deux psychiatres qui sont là, donc elles peuvent ensuite parfois orienter pour des suivis à l'extérieur. Et une troisième psychiatre qui du coup fait plutôt des entretiens uniques, d'évaluation et ensuite de réorientation.
Et pour revenir au service psychologique du SSE, Sophie nous partage deux changements récents qui ont contribué à établir une meilleure proximité avec les étudiants.
Ça, c'était mon ancien directeur, le docteur Régnier, qui avait mis en place les accueils sans rendez-vous ici, dans nos locaux au SSE, et également les accueils sans rendez-vous sur différents campus de Sorbonne Université, dont Jussieu, Clignancourt, Malesherbes. Donc on a des créneaux où les étudiants peuvent venir directement toquer à notre porte, se présenter et pouvoir bénéficier soit tout de suite s'il n'y a personne, soit dans un second temps en prenant rendez-vous avec le praticien. Voilà, c'était une manière de s'installer dans les campus, de montrer que nous étions pas méchants et que accueillants et bienveillants, et aussi de, si on est un peu angoissé après un partiel ou juste après un cours, hop là, on est juste à côté. Par exemple, moi je fais la permanence avec et sans rendez-vous à Jussieu le mardi matin sur le campus à la maison de la vie étudiante, et comme c'est un endroit où il y a beaucoup de passages déjà d'étudiants, c'est sympa de se dire bon bah voilà, je viens chercher, je sais pas, un masque, un calendrier, un petit déj ou quelque chose, et pas à la, forcément à la vue de tous, mais je peux toquer à la porte du psy. Et là, la seconde nouveauté, et là c'est le docteur Guillot, donc la directrice de notre service, qui l'a mis en place, c'est Doctolib. C'est vrai qu'il y a quelque chose dont on a l'habitude d'utiliser là, finalement de pouvoir prendre rendez-vous avec les psychologues du SSE via Doctolib, c'est une manière aussi d'avoir accès à des étudiants qui peut-être sont trop timides ou peut-être sont trop isolés ou qui sont trop exclus ou qui viennent carrément plus en cours, d'avoir quand même une plateforme entre eux et nous. Là, avec Doctolib, on se mouille pas tant que ça, on n'est pas obligé de toquer directement à la porte, on n'est pas obligé d'écrire un mail ou de téléphoner au secrétariat. On prend rendez-vous et on voit.
Ensemble avec Nathalie, notre psychologue du service, Sophie et Camille ont aussi récemment mis au point un projet de podcast. Il sera centré autour des expériences d'étudiants qui ont pu profiter de l'aide psychologique du SSE.
Et donc du coup, l'idée du podcast, ça a démarré par l'idée plutôt de Sophie, donc voilà, assez générale, de proposer un podcast où ce seraient vraiment les étudiants qui sont au centre de la question. Et du coup, en discutant entre nous avec donc Nathalie, Sophie et moi à trois, on a eu l'idée de potentiellement axer ça vraiment sur la question un peu du basculement de qu'est-ce qui vous a fait finalement prendre rendez-vous avec le SSE. Et on va dire, pour nous, notre question, c'était avec un petit psychologue, puisqu'on sait qu'il peut y avoir vraiment justement des tergiversations, j'ai envie de voir un psy mais j'y vais pas, ou j'ai peur, ou... et ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Mais qu'est-ce qui fait que les étudiants qu'on finit par rencontrer, c'est ceux qui ont sauté le pas? Et donc quel est ce point de bascule? Qu'est-ce qui fait que je vais mal depuis 3 mois, mais là aujourd'hui j'ai pris rendez-vous et là je vais à mon rendez-vous, je ne le rate pas. C'était vraiment ça, on va dire, le point central de la question, plutôt que d'axer ça sur vraiment la psychopathologie, par exemple un cas de dépression, un cas de trouble du comportement alimentaire qui serait un petit peu scolaire, et du coup vraiment d'axer ça sur aussi le vécu en interne de l'étudiant.
En attendant donc d'écouter ce podcast, n'hésitez pas vous aussi à sauter le pas en contactant le service santé étudiante en cas de besoin.
Merci beaucoup Lavinia pour ce reportage vraiment trop fort, hyper intéressant et surtout très essentiel. J'ai entendu dire qu'Halloween approche et que vous n'avez pas encore de plan. Non, ça part franchement. Pourtant à Paris, des magasins, des costumes aux boîtes déguisées, ce n'est pas ce qui manque. Pour vous éviter une soirée aux costumes ratés, Jade est là pour vous dégoter l'activité du 31.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez, la vedette, la table!
Halloween arrive et ton budget étudiant fait déjà peur. Pas de panique, j'ai sélectionné. Ok, on reprend? Halloween arrive et ton budget étudiant fait déjà peur.
Pas de panique, j'ai sélectionné de bons plans pour passer une journée et une soirée d'Halloween sans que ton portefeuille te jette un sort. Pour les costumes, si tu veux être un fantôme sans te ruiner, file chez Au Feu de la Fête, dans le 6e arrondissement, costumes et accessoires à prix abordable. Pour louer, plutôt qu'acheter, direction l'Académie du Bal Costumé dans le 12e, vampires, sorcières ou zombies, ça mord pas ton porte-monnaie. Et pour les plus audacieux, La Joie pour tous dans le 5e propose plus de 1000 références de quoi devenir une Tana, un monstre ou même ton prof préféré. Pour la journée, embarque pour une croisière Halloween sur la Seine, ambiance hantée garantie et selfie avec un vampire inclus. Toujours dans le chill, si tu aimes les énigmes, tente un escape game, c'est comme un partiel mais avec plus de cris et moins de café. Pour les amateurs d'histoire et de sensations fortes, balade-toi au cimetière du Père Lachaise, statue, tombe célèbre et fantôme de ton grand-père au rendez-vous. Et pour les plus sadiques, les catacombes de Paris, frissons garantis ou pipi aussi. Et pour la soirée... Et pour la soirée, rendez-vous à Châtelet pour la Doro Party le 31 octobre à 18h. DJ, danse, animation, la soirée où même les fantômes viennent s'éclater ou s'exalter. Sinon, tu peux tester la soirée inter-école One Night in Paris pour une nuit étudiante moins dénudée. La soirée Halloween au célèbre nightclub, 2 salles, 2 ambiances, mais la musique est toujours dingue. Pour du spectaculaire, rendez-vous du 31 octobre au 2 novembre au cabaret des Déterrés, au Père Lachaise, pour voir les fantômes du passé faire leur show. Alors prépare ton costume, affûte tes dents de vampire et pourquoi pas tester le déguisement de ton prof préféré. Halloween à Paris promet d'être plus fou que ton planning de partiel.
Eh bien, merci beaucoup, Jade. Vraiment, là, tu nous as... On est surexcités, et c'est le cas de le dire, pour Halloween, en fait. On a très hâte, là, et surtout, on va avoir plein de bons plans grâce à toi. Et la Doro Party, bah oui, mais ça c'est déjà prévu. Jeune artiste encore sous-cotée de l'industrie, malgré ses millions de streaming sur Spotify, elle n'a encore pas sorti aucun album, mais a déjà couvert les bandes originales d'un film et d'une série. Je parle ici d'Olivia Merilati. On écoute son nouveau single Soft Porn sur CDH, sur Cour d'honneur.
Took so many years to identify the undeniable darkness beyond the smiles. Writing soft pop to let the anger out. Pretty songs to make the rage comfortable. Can't hold my breath any longer now. Can't play pretend when I fall apart. Woke up and just got electrified. Run now, waste of life. Violent and visible. invisible. Took so many years to recover from consistent abuse, disguised as love. Watching soft porn to clear the room. A bit of online joy to ease the mood. Now that I'm in charge, everything's in line. I'll be better and safe and think that psychopath. Can't hold my breath any longer now. Can't play pretend when I fall apart. Woke up and just got electrified. Brand new ways to fly. Can't keep shining my dead inside. Can't keep right in the wrong light. Woke up and just got electrified. No more tears to cry.
Il est 20h46 sur Cours d'honneur. Vous venez d'écouter Soft Porn d'Olivia Merilati, son nouveau son sorti vendredi dernier après de nombreux singles et EP. On espère l'album qui a pour l'instant se fait juste désirer, mais en attendant, on écoute la chronique pavée d'Alice tout de suite sur Radio Campus, sur Cours d'honneur.
Shut up. Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Oui, parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon, quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas.
On ne parle plus de déguisement et masque, mais presque, puisqu'on parle d'une asso qui mettait en avant l'homosexualité dans une société hétéronormée et encore un peu fermée d'esprit. C'est Alice qui vous raconte comment ils sont allés dans plusieurs facs pour faire de la sensibilisation à une époque de préjugés, mais surtout en pleine période du sida.
Et oui, Swan, pour cette émission à faire frissonner du plus sage gaillard au plus grand polisson, j'ai prévu de remonter le temps et de vous raconter une légende à faire claquer les dents. Une histoire dont le grand monstre sévit encore aujourd'hui, une histoire sur l'homophobie. Mais une histoire qui ne se termine pas trop mal. En tout cas, ça dépend pour qui. Alors ne prenez pas la poudre d'escampette, n'en faites pas un scandale. Cette histoire, c'est Mathieu Simonet, écrivain et ancien avocat, qui, sur la toile, non pas d'araignée, nous l'a raconté. Il a 17 ans quand il débarque à Paris dans les années 90, jeune gay qui ne demande qu'à découvrir les coins queer de la capitale. Il découvre l'assaut Gage, qui rassemblait des étudiants homo de Paris, qui se réunissaient un soir par semaine au duplex. Et oui, à l'époque, l'homophobie traînait dans les rues, surtout tard le soir.
Pourquoi Pédé ? Je vais te faire courir, moi, mon rouquin pédé!
N'est-ce pas?
Rouquin pédé, le spectacle musical.
C'est pourquoi ces jeunes se retrouvaient hors de la fac. Vivre caché était néanmoins considéré par Mathieu comme une révolution comparée à la décennie précédente. Même caché, ils pouvaient tout au moins être eux-mêmes ensemble. Ras-le-bol de la culpabilité solitaire, isolée, culpabilité sédentaire qui reste chez soi. Après plusieurs témoignages similaires aux siens, il a, avec ses camarades, un déclic. Il irait dans les facs pour aller à la rencontre de celles et ceux qui ne s'assument pas et se sentent isolés.
Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro ?
À ton avis.
Gay.
C'est ainsi qu'un soir au duplex, un groupe de quatre informait le chevalier qui délivrerait du placard un maximum de Queen et de King et de tout ce qu'il y a au milieu se constitue. Caroline, Aude, Philippe et lui-même. Les voilà partis pour leur première action le 13 avril 1995 à la Sorbonne. Dans le hall, une table, des prospectus d'assaut gays et lesbiennes bien en évidence et eux quatre pris à débattre avec les hétérosexuels plus ou moins contractuels. Ils pensaient qu'ainsi, dans cette démarche, il serait plus facile d'entrer en contact avec ceux qui ne s'assument pas. Leur stratégie, tout écouter, tout le monde, même les insultes et arguments homophobes, comme les comparaisons avec les animaux par exemple. Ils étaient là pour échanger, pas pour convaincre, et ça a plutôt marché. Il est même arrivé que les plus virulents, ceux qui montraient les dents, les recontactent parfois en faisant patte blanche pour faire un coming out, toujours refoulé, jamais osé, maintenant enfin libéré. Ils enchaînent rapidement avec une deuxième action similaire, 2 mois plus tard à Jussieu, puis Nanterre. En parallèle, grâce à l'aide d'autres étudiants, 200 tracts sont imprimés et collés dans les facs parisiennes. Tracts d'ailleurs bien rapidement arrachés. Dans un journal publié par Le Gage à l'époque, Mathieu retrouve une interview de l'assaut LSD. Les lesbiennes se déchaînent. Une des questions qui leur a été posée est comment l'action a-t-elle été accueillie par les étudiants ? Ce à quoi elles répondent avec agacement.
Why are you gay ? You are gay.
Ils ne refusent pas de dialoguer, mais ils se sentent pas concernés. Beaucoup d'entre eux nous ont trouvés provoquants. Ils ne, ne laissent rien des homosexuels autour d'eux et de manière générale, ils ne comprennent pas notre militantisme. Elles affirment aussi que ce qui ressort des dialogues engagés, ce sont des préjugés toujours très forts. Beaucoup de gens pensaient que c'était une maladie.
Je n'ai rien contre les homosexuels, hein. On les aime et c'est contre nature. Hein.
De plus, à l'époque, le sida est l'autre monstre qui sévit et qui entraîne dans son baiser de mort tellement de victimes queer ou non. Durant cette période, la cour d'appel de Paris venait de donner raison à une propriétaire qui voulait expulser le compagnon d'un locataire décédé de cette maladie. Les juges estimaient que seul un homme et une femme pouvaient vivre en concubinage, empêchant la loi de transfert du bail entre concubins. La cour de cassation confirme cette décision 2 ans plus tard, le 17 décembre 1997. Décision qui serait jugée aujourd'hui comme discriminatoire en droit et inhumaine dans les faits. C'est ainsi qu'à une époque où les préjugés accentués par la peur de l'épidémie avaient la vie dure, à une époque où Internet n'existait pas, à une époque où les minorités vivaient encore cachées, Mathieu a, avec ses camarades, lancé une visibilité homosexuelle queer dans les universités parisiennes. Aujourd'hui, le monstre de l'homophobie retentit un retour en force un peu parti dans le monde, appuyé par les gouvernements fascistes et conservateurs. Il est temps plus que jamais de prendre conscience de ses privilèges et de ses libertés, de s'en servir et de lutter pour ceux qui les perdent en un claquement de doigts. Si vous le pouvez, informez, soutenez, n'oubliez pas, jamais, n'arrêtez jamais de parler, n'arrêtez jamais de vous montrer, soutenez toujours la visibilité pour tous celles que l'on force encore 30 ans plus tard à se cacher. Que les placards dans lesquels on veut nous enfermer ne se transforment plus jamais en cercueil, sauf pour Halloween.
Merci beaucoup, Alice, pour cette chronique engagée et cette transition de qualité à la fin, vraiment, c'était impressionnant. Et c'est maintenant l'heure de la carte postale.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Nous sommes à quelques jours des premières vacances universitaires de l'année 2025-2026 et mains auditeurs de cours d'honneur ont fait leur premier pas à la Sorbonne cette année. Une rentrée inédite qui passe bien évidemment par la journée d'intégration de notre fac, le rallye des Sorbonnales. Une journée de jeux par équipe dans le campus historique de Sorbonne Université, un événement auquel participait RSU. Le thème cette année était « Mais qui donc a volé la couronne de Louis XVI ?» Louis XIV. Dans la chronique scandaleuse, les nouveaux étudiants se sont prêtés au jeu des rumeurs et des intrigues de la cour royale, mais écoutez plutôt la carte postale de cour d'honneur qui vous plonge dans cette journée hors du temps.
En ce jour, vous allez devoir défendre l'honneur de la cour ou d'un personnage dont il est question. Face à une révélation inattendue, un bruit de couloir ou une accusation savamment lancée à la cantonade, saurez-vous faire preuve d'esprit, de finesse et d'aplomb pour détourner la chronique à votre avantage ?
Il se murmure que la nouvelle favorite du roi aurait fait installer une baignoire dans ses appartements. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?
Eh bien, je pense qu'elle est à défendre étant donné que, puisqu'elle est la favorite du roi et que nous devons nous plier aux volontés de notre cher monarque, eh bien, si elle souhaite avoir une baignoire dans sa chambre, eh bien qu'elle en ait une.
Vous êtes quand même bien servile, qu'est-ce que dit votre camarade à côté ?
Est-ce que les baignoires, c'est mieux que les douches ?
Mais ne pensez-vous pas que ça sort des bonnes mœurs de la cour ? Et que ce n'est pas un peu scandaleux ?
Ça veut dire qu'elle se met nue devant tout le monde ? N'a-t-elle pas honte de se montrer ainsi ?
Vous nous avez dit que la favorite du roi aurait installé une baignoire dans ses appartements.
Tout à fait.
Je trouve ça scandaleux. Scandaleux puisque, nous le savons très bien, la reine n'a pas pu avoir de baignoire le jour de son arrivée dans son château.
À cette époque-là, il ne se lavait pas, donc il n'en avait pas besoin.
Quelle injustice en effet, surtout qu'il aurait pu tout simplement utiliser du parfum comme tout le monde.
Oui, exactement, ouais. Et qu'il aurait pu se laver les parties du corps avec un linge imbibé d'alcool.
C'est vrai qu'on a vu le plombier royal venir 3 fois par jour vérifier la baignoire.
Notre argent qu'on achète pour nos enfants.
En effet.
Pour nos mères, pour
lève
nos mères.
La voix.
Où se trouve-t-il ?
Amen.
Je l'envoie.
Amen.
Prince de quoi ?
Que la cour retienne son souffle, car sous les ors de Versailles, la rumeur est parfois plus redoutable que la vérité.
On raconte que Madame de Maintenon aurait brûlé des lettres compromettantes pour cacher un secret d'État. Que cherche-t-elle à dissimuler ?
Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'on brûle des lettres ? Qu'on brûle des lettres, qu'on les cache à notre monarque, c'est une honte.
Je ne vois aucun scandale dans tout cela. Peut-être est-ce une peine de cœur.
J'ai entendu dire qu'il y avait des rumeurs comme quoi elle voyait un amant. Ne serait-ce pas plutôt ça la raison pour laquelle elle brûlerait des lettres ?
Elle a eu une relation charnelle avec un homme de la cour et elle s'est échangé des messages très pleins d'ardeur et elle les a brûlés justement par le feu pour ne plus avoir aucune trace de toutes ces conversations-là. Surtout qu'elle entretient une relation avec un homme qui est déjà marié. Donc c'est vraiment... C'est vraiment un gros adultère et que... Et voilà.
En savez-vous plus sur cet homme marié ?
Ouais, il s'appelle Armand Duplessis. Et donc, il est marié avec Elisabeth de Limoges.
il se murmure que la dernière mode des perruques poudrées cacherait un complot visant à éclipser la magnificence du roi. Qu'en dites-vous ? Est-ce de la pure jalousie ou la cour est-elle le théâtre d'une nouvelle intrigue ?
On peut supposer que le peuple essaye de se rapprocher du roi en le copiant avec ses perruques tout à fait sublimes.
Et qu'y a-t-il de mal à vouloir ressembler à notre monarque ?
Il a été choisi par Dieu et nous ne pouvons décemment pas faire comme si les attraits qui lui ont été conférés en cet honneur peuvent être portés par n'importe qui juste comme un acte de dévotion vulgaire.
Très bien, bien, je pense que...
Merci beaucoup, nous pouvons clore à présent cette chronique scandaleuse. Merci pour votre participation. Et à bientôt.
Bravo à toutes.
Excellente, excellente carte postale qui relate de cet après-midi où justement Lavinia, Clara et Ellie étaient présents. Merci beaucoup. Et en parlant de personnes, ça a été historique. Bientôt, c'est le Sorbonne en personne.
On prend la direction de la Sorbonne en personne.
Ce soir, Ellie a décidé de nous parler d'elle, enfin non pardon, plutôt de son éponyme, parce que à ce que je sache, tu n'es pas encore prix Nobel de la paix, même si je te le souhaite Ellie, mais du coup, qui est ce fameux autre Ellie?
En effet Swan, bien que je sois déjà à mon si jeune âge, un personnage illustre de la Sorbonne et que je sois également narcissique à mes heures perdues.
Je vais encore pas trouver de boulot, on va encore me dire que, voilà, on va encore me faire un délit de faciès. Trop beau. Trop beau, trop merveilleux.
Je n'ai pas encore la prétention de faire une chronique sur moi-même, mais ça ne saurait tarder, attendez. Non, je vais vous parler de Ellie Wiesel, parce que déjà, il porte un prénom incroyable, incroyablement formidable, qu'on se le dise, et en plus d'avoir donné son nom à mon parc parisien préféré, c'est un très grand homme qui a même eu son propre hommage à la Sorbonne lors de sa mort en 2016. Ellie Wiesel, donc, c'est un jeune garçon né en 1928 à Sighet, un petit village de Transylvanie. Oui, oui, comme Nosferatu.
You must bow to it, crazy style.
Bien que notre cher vampire, lui, n'ait pas la moitié du talent de Monsieur Wiesel. Bref, assez plaisanté. C'était un enfant comme les autres, passionné d'études, de foi, de littérature, mais son destin bascule en 1944, lorsqu'à 15 ans, il est déporté avec sa famille à Auschwitz, puis à Buchenwald. Son père meurt dans ses bras, sa mère et sa sœur disparaissent, et lui, il survit. Mais survivre, c'est aussi porter une mémoire, un poids, une promesse, celle de raconter. Après des études de philosophie à la Sorbonne, il devint journaliste et écrivain. C'est ensuite en 1958 qu'il publie La Nuit, un récit bref, brûlant, presque sec, comme si les mots eux-mêmes refusaient de se prêter à l'indicible. Ce livre deviendra un texte majeur du XXe siècle, lu dans le monde entier. Wiesel y écrit la douleur, la perte, la foi vacillante, mais aussi cette obstination à rester humain dans un monde déshumanisé. Au fil de sa vie, il sera écrivain, professeur, conférencier, notamment dans notre chère et belle Sorbonne, mais surtout témoin. Un mot simple, mais immense. Il parlera pour ceux qui ne le peuvent plus, pour que jamais la mémoire de la Shoah ne devienne poussière ou indifférence. En 1986, il reçoit le prix Nobel de la paix. Le comité Nobel le salue comme le messager de l'humanité. Un homme qui a su transformer sa souffrance en appel à la responsabilité, car pour lui, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et c'est peut-être là que réside toute la force de Wiesel, dans cette exigence morale qu'il adresse à chacun de nous. Ne pas détourner le regard, ne pas se taire face à l'injustice, qu'elle soit d'hier ou aujourd'hui. Et jusqu'à sa mort en 2016, Ellie Wiesel aura rappelé au monde qu'aucune tragédie, aucune guerre, aucun génocide ne doit être effacé par le temps. Sa parole continue d'éclairer nos consciences comme une veilleuse fragile, mais tenace, surtout dans les temps que notre humanité a pu traverser ces dernières années. Voilà, un hommage à Ellie Wiesel, l'homme qui a survécu pour que la mémoire, elle, ne meure jamais.
Merci beaucoup, Ellie, pour cette personnalité assez incroyable. Je pense qu'on ira faire un reportage dans ce parc, carrément. Merci beaucoup. C'est la fin du troisième épisode de la saison. Cours d'honneur, épisode 3, saison 5, c'est terminé. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout à notre invité Romane Orly, interviewé par Clara. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Radio Sorbonne Université existe sur Instagram, sur les plateformes de podcast et dans ta fac aussi. Merci donc à toute l'équipe. Merci à Ellie Wiesel et non, Ellie Lafitte.
Merci. Pour une fois, je passe en première et tu ne m'oublies pas. Wouh !
C'était la dernière.
Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se revoit après les vacances dans 2 semaines. On revient très vite. Bisous à tous.
Avec hâte, gros bisous. Bisous Clara.
Bisous, j'étais vraiment ravie de faire cette émission comme bac. Pourquoi ? Mais les vacances, ça ne me concerne pas. Donc bonnes vacances à vous. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures et les reportages. J'ai noté, Swan.
Yes, noté. Merci, merci. Bisous Alice.
Désolée, j'étais avec ma sucette. Moi aussi, je vous fais de gros bisous. Bon Halloween. Bon, trois fois bonbon. Ok. Et je vous dis à bientôt. Dans deux semaines, un mois. Je ne sais pas encore quand est-ce que je reviendrai. Ça dépendra de vous.
On si a
vous
très hâte de ton retour n'empêche. Bisous à Jade.
Bisous, bisous. On se retrouve à la Doro Party le 31.
Yes. Bisous à Lavinia.
Alors, franchement, c'était une émission, on a très bien rigolé, même très très bien rigolé.
Un peu trop.
Mm-hmm. Et merci à Ellie pour avoir parlé de ma ville natale, quoi. Sigit Marmatier.
Je l'ai bien prononcé, j'espère.
Non, Sigit, c'est très bien. Non, mais ok, voilà, parfait, voilà.
Bisous, Elias.
Eh bien, bisous à toutes et à tous. Moi, pas concerné non plus par les vacances, malheureusement. Mais en tout cas, très belle énergie ce soir, très content d'être là, comme d'habitude, et à très vite.
À très vite, bisous aussi à Thomas le muet de ce soir.
Salut, merci, ravi de m'avoir accueilli. Vous avez pas remarqué, mais j'étais déguisé ce soir.
Et oui, il était déguisé en lui-même, incroyable. Merci évidemment à Radio Campus Paris pour le soutien inconditionnel et pour le partenariat. N'oubliez pas que Cours d'honneur passe en mode bimensuel, un épisode toutes les deux semaines. Et merci surtout à vous que ce thème enfantin n'a pas fait fuir. On espère qu'on vous a donné envie de faire la fête ce 31. Soyez vous-même,
merci
soyez
Marion.
Vous-même. Merci Marion. Oui, Marion, à la réalisation, on l'a quand même pas dit, incroyable. Soyez vous-même, soyez fous-même, restez curieux, restez avec nous, on vous aime, bisous, ciao.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais, hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris. J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.